Every day, anywhere, anytime, the Digital Gospel Channel, Ebenezer International, your station. Nous vous proposons d'écouter Famille en ligne de mire. Famille en ligne de mire, une émission conçue pour toutes celles et ceux qui veulent le bonheur de leur famille. Famille en ligne de mire, avec Franck Doristil, votre ami podcasteur. Une courtoisie de Trésor Sonore. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous compter des nôtres à l'heure de la deuxième édition de ce nouveau format de l'émission FamiliaPod que nous appelons Famille en ligne de mire. C'est bien Franck Doristil, votre ami podcaster, qui vous parle depuis son home studio basé en France métropolitaine. Et nous vous remercions d'avoir choisi cette radio dont l'objectif principal est de vous pourvoir de bonne nourriture spirituelle. Chers amis à l'écoute, lorsque nous suivons des reportages à la télé au cours desquels nous voyons des jeunes ados se livrant à des pratiques illicites, la réaction la plus naturelle que l'on peut avoir est celle d'incriminer les parents qui, selon nous, n'ont pas fait leur travail. Pourtant, une chose que nous oublions très souvent, c'est que bien des gens sont devenus parents sans avoir eux-mêmes appris vraiment ce qu'est l'adolescence. Ils peuvent bien avoir le bon vouloir, mais désarmés face à ces changements tant physiologiques que physiques survenant chez leurs enfants, ils ont tout simplement baissé les bras. Eh bien, afin d'aider ces parents qui le souhaitent à mieux comprendre leur adolescent, la radio chrétienne Ebenezer International vient avec une toute nouvelle série d'émissions abordant la question sans aucun complexe. La famille en ligne de mire est une courtoisie de Trésor Média. Je vous rappelle que vous êtes sur la radio chrétienne Ebenezer International à l'heure de Famille en ligne de mire. Avant la première partie de l'émission sur l'adolescence, écoutons l'artiste québécoise Andréanne Lafleur dans un morceau intitulé « Prends-moi la main » que je dédie à tous les adolescents et les parents à l'écoute de ce programme. Bonne écoute à vous toutes et à vous tous.
J'ai plein d'ambition, elle se battait pour la paix. Elle voulait faire la différence dans tout ce qu'elle faisait.
Écoutez, famille en ligne de mire.
À ceux qui sont souffrants et apporter un changement en priant. jamais seule. Tu fus mon meilleur ami, toi ma fierté et mon guide. Tu ne m'as jamais trompé, tu m'as aimé. Je m'endors et je cours vers toi. Je ne crains rien, car je te vois.
Céder l'antenne à l'équipe de la famille d'aujourd'hui pour la première partie de cette émission autour de l'adolescence. Je vous souhaite donc une agréable écoute.
Nous savons tous que la vie n'est pas toujours facile quand on a entre 13 et 18 ans. Tout paraît plus compliqué. Nos relations avec les parents, les frères et sœurs, les amis et surtout avec le sexe opposé. Nous pouvons expliquer les difficultés et les tensions de ces années d'adolescence par le fait que les émotions y sont plus vives qu'à n'importe quelle autre période de la vie. Les sentiments positifs ou négatifs prennent une intensité toute particulière, ce qui les rend plus difficiles à gérer. Dans quelques instants, le docteur Dobson abordera plus en détail la question des émotions durant l'adolescence en s'adressant directement aux jeunes et à leurs familles. Alors, restez à l'écoute de cette nouvelle émission de La Famille Aujourd'hui. Bonjour, au micro Pascal Bardet, je vous souhaite la bienvenue à notre émission habituelle en compagnie du docteur Dobson, psychologue et auteur bien connu. Docteur, dans une émission précédente, nous avons parlé du conflit qui surgit parfois chez les adultes entre les sentiments et la raison. Nous avons vu que les résultats peuvent être désastreux si les sentiments prennent le pas sur la raison. Il semble que ce conflit est encore plus accentué chez les jeunes. Pourquoi les sentiments de l'adolescent sont-ils si instables ?
Il faut comprendre, Pascal, que pour les jeunes, en particulier pendant l'adolescence, le moindre événement de leur vie est vécu intensément. Vous souvenez-vous de votre première nuit sous tente, ou de votre première visite chez le dentiste ? Ce que je veux dire, c'est que quand on est jeune, les bonnes expériences sont considérées comme passionnantes et les mauvaises comme insupportables. Cela signifie pour vous, les plus jeunes qui nous écoutez et qui entrez dans l'adolescence, que vos sentiments vont probablement s'intensifier durant ces prochaines années. C'est tout simplement une des caractéristiques de l'adolescence. Bien des petites choses qui vous paraîtront insignifiantes lorsque vous serez adulte, vous agaceront durant l'adolescence. Vos craintes seront plus angoissantes et vos plaisirs plus exaltants. Vos irritations seront plus perturbantes. Et la moindre frustration deviendra toujours plus intolérable. Durant les premières années de l'adolescence, chaque expérience prend souvent des proportions énormes. C'est pourquoi les jeunes explosent si facilement et agissent parfois sans réfléchir pour ensuite le regretter. Vous apprendrez vite que durant l'adolescence, les sentiments ont une profondeur et une puissance particulière.
Il serait peut-être utile que vous décriviez certains des sentiments de l'adolescent avec leurs caractéristiques.
Oui, d'accord, Pascal. Commençons d'abord par ce que j'appelle le yo-yo humain. Cela vous aidera à comprendre que notre état émotionnel a tendance à passer par des hauts et des bas. Comment cela, me demanderez-vous ? Cela signifie que si vous êtes démoralisé, triste, si tout va mal et que la vie vous paraît ne plus en valoir la peine, eh bien, tenez bon quelques jours parce que vous n'allez pas rester longtemps déprimé. Les circonstances vont changer et le soleil brillera de nouveau. Tôt ou tard, vous vous réveillerez un matin en vous sentant heureux d'être en vie. Vous allez bondir hors du lit, siffler en regardant les oiseaux, vous émerveiller devant les fleurs et chanter toute la journée.
C'est bon à savoir. Et combien de temps va durer ce bien-être ?
Ah, malheureusement, Pascal, cette sensation de bien-être ne va pas durer non plus. Oh. Peu de personnes restent très longtemps dans un état de bonheur extrême ou de profonde déprime. Habituellement, les émotions passent par des hauts et des bas, tout au long de l'année. Mmh. En fait, dans ce domaine-là, nous fonctionnons tous comme des yo-yo. Par conséquent, quand vous vous sentez euphorique, attendez-vous à redescendre sur Terre. Et lorsque vous êtes au creux de la vague, attendez-vous à remonter. Cela vous évitera d'être surpris ou découragé en cas de brusque changement. Une autre façon de décrire l'instabilité des sentiments serait de dire que les émotions humaines sont cycliques. Elles suivent un cycle régulier qui est influencé par le nombre d'heures de sommeil, l'état de santé et les circonstances du moment. En fait, le monde n'est pas vraiment comme nous le voyons. Dans une certaine mesure, nos émotions déforment ou modifient la réalité.
Ce que vous dites là est plutôt déconcertant. Est-ce que vous voulez dire que nous ne percevons jamais le monde de manière correcte, ou plutôt que nous ne devrions pas toujours nous fier à notre perception du monde ?
Eh bien, mon propos se rapproche plutôt de la deuxième partie de votre question. Mmh. Il touche à un autre aspect qu'il est important de connaître à propos des émotions, c'est le danger de se fier entièrement à ses impressions. Une impression, c'est une pensée intérieure, qui peut nous sembler venir de Dieu ou avoir une origine inconnue. Je connais par exemple un jeune homme qui, un jour, pendant qu'il conduisait sa voiture, a eu la forte conviction qu'il allait bientôt mourir. Il a eu l'impression d'entendre ce message au plus profond de ses pensées. « Ta vie est bientôt terminée. » Il a cru que Dieu lui demandait de se préparer à mourir. Il a commencé à suer et son cœur s'est mis à battre la chamade. Ce garçon pensait vraiment qu'il était en train de vivre ses derniers instants. Dans sa détresse, il a failli percuter un poteau téléphonique, et j'imagine que ça aurait confirmé son impression. Mais je peux vous assurer que ce jeune homme est encore en vie aujourd'hui, et que tout va bien pour lui.
C'est rassurant. Cette expérience montre en tout cas qu'on ne peut pas toujours se fier à ses impressions, même si elles sont fortes.
Exactement. Vous pouvez avoir toutes sortes de sensations, et si vous leur faites chaque fois confiance, elles peuvent vous amener à prendre de mauvaises décisions. Par exemple, certaines impressions peuvent vous pousser à vous marier subitement, ou à déménager, ou encore à abandonner vos études. Lorsque ces pensées, ces sentiments surgissent avec force, souvenez-vous d'une chose. Dieu exige rarement des changements immédiats. Alors, accordez-vous quelques jours ou quelques semaines de réflexion pour examiner la question sous tous ses aspects. Et plus la décision est importante, plus vous devez analyser les faits avec prudence. Si vous êtes d'accord, abordons maintenant un autre problème qui est propre à l'adolescence. C'est ce que nous appelons le conflit des générations.
Oula ! Voilà un sujet important qui doit bien être compris par les deux générations.
J'aimerais m'adresser personnellement à chaque adolescent qui nous écoute. Mmh. En parlant de conflit des générations, je fais allusion aux tensions qui vont certainement surgir entre vous et vos parents durant vos années d'adolescence. Mmh. Vous me direz, mais comment savez-vous que j'aurai des moments de friction avec mes parents dans les années à venir ? Eh bien, je le sais, à cause des changements importants qui vont bientôt se produire dans votre relation. À la naissance, vous étiez entièrement dépendant de vos parents. Votre vie était entre leurs mains. Vous ne pouviez rien faire par vous-même, ni vous retourner dans le berceau, ni vous langer, et quand vous aviez faim, vous n'aviez que ces petits cris stridents que Dieu vous a donnés pour appeler. Mmh. Mais en grandissant et en vous développant, vous avez commencé à vous libérer de cette dépendance. Vous avez appris à tenir votre biberon. Un peu plus tard, vous avez pu dormir toute une nuit sans vous réveiller pour réclamer à manger. Ensuite, vous avez appris à aller à quatre pattes, puis à marcher. Chaque fois que vous appreniez un nouveau comportement, vous gagniez un peu plus de liberté. Chaque nouvelle étape dans votre croissance vous a rendu plus indépendant de vos parents. Et de leur côté, leur tâche pour s'occuper de vous est devenue plus légère. Dans quelques années, ce processus sera terminé. Vous serez totalement indépendant de votre père et de votre mère, et eux seront déchargés de leurs devoirs envers vous.
J'imagine que la plupart des adolescents n'ont jamais vraiment réfléchi à ce processus qui leur permet d'atteindre leur indépendance. Ce parcours est à la fois inquiétant et passionnant.
Et ils ont tout intérêt à s'y préparer, parce qu'ils vont bientôt devenir leur propre maître.
Oui.
Jeune homme ou jeune fille, d'ici peu, vous allez devoir décider vous-même quand sortir et à quelle heure rentrer, avec qui passer votre temps libre, quand allez vous coucher, ce que vous allez manger et surtout ce que vous allez faire de votre vie. Vous devrez choisir si vous allez aimer Dieu ou si vous allez l'ignorer. Vos parents ne pourront plus rien exiger de vous parce que vous ne serez plus un enfant. En fait, vous allez peu à peu développer des rapports d'amitié avec vos parents, à la place d'une relation où ils exercent la discipline et le contrôle. Il est important que vous compreniez que l'enfance commence par une dépendance totale à la naissance et conduit progressivement à une indépendance complète à la fin de l'adolescence. Durant cette même période, vos parents passent de la condition de serviteur à celle d'homme et de femme libre. Voilà en quoi consiste l'enfance, l'adolescence et le rôle des parents.
D'accord, mais quel est le rapport entre ce processus d'autonomie progressive et le conflit que vous avez mentionné il y a quelques instants ?
Eh bien, quand un jeune atteint 14, 15 ou 16 ans, il découvre un avant-goût de l'indépendance et il se met parfois à vouloir immédiatement une liberté totale. Il veut prendre ses propres décisions, mener sa vie à sa guise. Il commence à se rebeller contre l'autorité de ses parents et il s'efforce de prouver qu'il n'est plus un enfant. Mais ses parents savent bien qu'il n'est pas encore prêt pour une indépendance totale. Il a encore besoin d'être dirigé dans certains domaines et les parents sont bien décidés à le lui faire comprendre. Cela déclenche parfois une situation pénible de tension qui peuvent durer 3 ou 4 ans.
Oui, je vois très bien ce que vous voulez dire.
Il y a une autre dimension à ce conflit, Pascal. C'est que l'adolescent, qui exige une indépendance complète vis-à-vis de l'autorité de ses parents, persiste en même temps à rester très dépendant dans d'autres domaines. Par exemple, il veut qu'on lui serve 3 repas chauds par jour. Il s'attend à ce que ses t-shirts soient repassés, ses factures de médecin réglées et à ce que ses chaussettes soient lavées. En d'autres termes, il veut la liberté, mais refuse les responsabilités qu'elle sous-entend. Le problème, c'est qu'il n'est pas possible d'avoir l'un sans l'autre. Quand quelqu'un n'est pas prêt à accepter toutes les responsabilités qui font partie de la vie, il n'est pas prêt non plus à gérer une liberté complète.
J'imagine que ce que vous dites là est plutôt difficile à accepter pour la plupart des adolescents.
Ah, évidemment, Pascal. Des millions de familles sont entrées en conflit sur cette question de l'indépendance. J'aimerais dire aux adolescents qui nous écoutent que vos familles vont probablement devoir affronter ce genre de problème. Et si de telles frictions apparaissent entre vos parents et vous, j'espère que vous vous souviendrez que ces tensions font partie du processus normal de croissance. Cela ne veut pas dire que vous n'aimez plus vos parents ou qu'ils ne vous aiment plus. Il s'agit d'une lutte naturelle qui surgit lorsque vous exigez de vos parents une liberté plus grande que celle qu'ils jugent bon de vous donner. Dans ce cas-là, la meilleure chose à faire, c'est d'en discuter ouvertement avec eux. Si vous trouvez qu'ils ne vous donnent pas l'indépendance que vous estimez juste pour votre âge, dites-le-leur calmement. Dites-leur que vous pensez être assez grand pour prendre un peu plus de décisions concernant votre vie, mais aussi d'en assumer les responsabilités. Mais soyez raisonnable. Si vos parents ont une position déterminée sur un sujet qui leur semble particulièrement important, je vous conseille de vous soumettre à leurs directives. Après tout, ils essaient d'agir de leur mieux et dans votre propre intérêt.
C'est ici que se termine notre discussion. Si vous entrez dans les années de l'adolescence ou si vous avez un adolescent à la maison, il se peut que vous traversiez en ce moment certaines des difficultés que nous venons de décrire. La communication entre les générations est essentielle si l'on veut éviter chez le jeune une rébellion et une rupture qui pourraient se prolonger bien au-delà de l'adolescence. Les parents devraient faire respecter les règles familiales établies dans le passé tout en laissant l'adolescent élargir ses horizons. De son côté, l'adolescent doit accepter les responsabilités qui accompagnent sa nouvelle liberté. De cette manière, ce conflit entre les générations pourra être désamorcé sans nuire à l'équilibre familial.
Ligne de mire.
Une pause musicale s'impose. Dany et Moïse Utrel, le regard de Jésus. Morceau que je dédie à mes quatre garçons ainsi que mon épouse Gerline qui écouteront ce programme ensemble sans doute. Soyez bénis.
De Jésus avec Dany et Moïse Urtrel. Vient maintenant le moment de retrouver nos amis de la famille aujourd'hui pour la deuxième partie de l'émission où il sera question de la conformité. Je vous souhaite une agréable écoute.
Que signifie pour vous le mot conformité? N'est-ce qu'un terme mystérieux sans intérêt tiré du dictionnaire ou aurait-il un rapport direct avec votre vie quotidienne? Si vous êtes dans l'adolescence, ou si vous allez bientôt y entrer, ce mot risque de jouer un rôle très important dans votre vie. En fait, comme va nous le démontrer le docteur Dobson dans quelques instants, même les adultes sont soumis aux règles de la conformité. Alors restez à l'écoute de cette nouvelle émission de La Famille Aujourd'hui. Bonjour, au micro Pascal Bardet. Une fois de plus, soyez les bienvenus à cette émission en compagnie de notre invité, le docteur Dobson, psychologue et auteur bien connu. Alors docteur, le sujet que nous abordons aujourd'hui s'adresse particulièrement à nos auditeurs âgés de 10 à 15 ans. Que pouvez-vous leur dire au sujet de la conformité et du pouvoir qu'elle exerce sur leur vie?
Comme vous le savez, Pascal, le terme conformité se rapporte au besoin d'être comme tout le monde, de faire comme les autres, de parler comme les autres, de penser comme les autres et de s'habiller comme les autres. Le conformiste est quelqu'un qui a peur d'être différent de la majorité. Il éprouve un besoin irrésistible d'être comme tout le monde. Dans notre société, nous sommes tous soumis à d'énormes pressions qui nous poussent à nous conformer au reste du groupe.
Lorsque vous dites « nous sommes tous », vous pensez uniquement aux adolescents ou est-ce que vous incluez également les adultes ?
Je pense effectivement que chacun, y compris l'adulte, est soumis à ces pressions. Je vais vous donner un exemple typique de conformité au sein d'un groupe d'adultes. Lorsque je me suis retrouvé pour la première fois parmi le personnel de l'hôpital, j'ai dû assister, comme tous les nouveaux employés, à des séances d'information. Elles étaient longues, ennuyeuses et duraient toute la journée. Le premier jour, nous nous sommes tous efforcés de ne pas nous endormir pendant les discours monotones de la responsable. La seule chose qui nous motivait un peu, c'était la table dressée dans un coin sur laquelle était installée une grande cafetière automatique et des plats remplis de pâtisseries délicieuses. Les 11 dames de notre groupe et moi-même jetions régulièrement des coups d'œil intéressés en direction de la table, attirés par la bonne odeur de café et nous réjouissant d'en boire une tasse. Oh, finalement, après 2 heures de discours, la responsable nous annonce enfin la pause. Mais au lieu de laisser tout le groupe aller prendre son café en même temps, elle a insisté pour que nous y allions chacun individuellement.
J'imagine ce qui va se passer.
Commençant à un bout de la table, elle invite la première personne à se lever pour aller se servir de café. Cette jeune femme était assez timide et n'avait pas vraiment envie d'être la première. De toute évidence, elle savait combien il était facile de commettre une maladresse et d'avoir l'air ridicule devant les autres. Soudainement, elle a baissé les yeux en murmurant « Non, merci, je ne crois pas que j'en prendrai ». Je savais pertinemment qu'elle avait envie d'un café, mais elle préférait attendre le moment propice sans courir de risque pour son ego.
Nous pouvons le comprendre.
La responsable s'est alors tournée vers la jeune femme suivante en disant « Bon, très bien. Et vous ? Désirez-vous une tasse de café ?» À son tour, cette seconde dame devait affronter tous les risques qui avaient tellement effrayé la première. Toutefois, avec un danger de plus. Le groupe venait de s'exprimer de façon non verbale au travers de la première personne, comme pour dire « Nous n'allons pas boire de café aujourd'hui ». Une seule voix avait suffi pour que le vote soit unanime.
Et alors, qu'a-t-elle fait ?
La pression sur cette deuxième jeune femme était telle qu'elle a été forcée de répondre « Non, merci ». Et en effet, toutes les dames, l'une après l'autre, ont poliment refusé de prendre une tasse de café en répondant « Non, merci ». Mais quand l'invitation m'a été adressée, j'ai répondu « Eh bien, j'en prendrai volontiers une tasse ». Et aussi invraisemblable que cela puisse paraître, dès que je me suis levé pour aller jusqu'à la table, j'avais 11 dames à mes trousses, voulant se servir de café.
Mais c'est vraiment surprenant, comme nous pouvons avoir peur les uns des autres, même entre adultes.
Ah, c'est surprenant, en effet. Nous sommes terrifiés à l'idée de commettre un impair devant les autres et d'être ridiculisés. Même une chose aussi insignifiante que d'aller chercher une tasse de café peut devenir paralysante si nous avons l'impression que le reste du groupe ne souhaite pas que nous le fassions. De ce fait, nous limitons notre comportement à des actions entourées d'une sécurité totale et sans risque de ridicule, dans l'espoir d'éliminer le danger de voir quelqu'un se moquer de nous.
Vous venez de décrire cette peur du ridicule pour les adultes, mais n'est-elle pas atténuée parmi les adolescents, puisque la jeune génération se sent tout de même beaucoup plus libre et sans complexe ?
Il n'existe aucune autre période de la vie où les pressions en vue de suivre les fantaisies d'un groupe ne sont plus fortes que durant l'adolescence. À cet âge-là, tout comportement qui dévie de la norme porte un coup redoutable à votre image. Et cette pression comporte un côté tyrannique. Et si le groupe décrète que les jupes courtes sont à la mode, malheur à la fille qui ne le comprend pas assez vite. Si un garçon parle ou marche bizarrement, il aura droit au mépris général des copains. Et c'est pourquoi tous les adolescents savent qu'on ne peut éviter le ridicule qu'en restant soigneusement dans la ligne de l'opinion dominante. L'adolescent, dont le rejet de soi et les besoins psychologiques sont intenses, n'osera jamais courir le risque de s'opposer à la volonté de la majorité, même pour la chose la plus banale.
Pouvez-vous nous expliquer pourquoi nous avons tellement peur d'être rejetés par un groupe? Pourquoi nous nous sentons obligés d'agir comme le demandent ceux de notre âge? Chacun n'est-il pas libre et indépendant?
Vous savez, Pascal, ces questions nous ramènent au cœur même du sentiment d'infériorité. Lorsque vous avez l'impression d'être stupide et de ne rien valoir, si vous avez beaucoup de peine à vous accepter tel que vous êtes, la crainte du ridicule ou la peur d'être rejeté par vos amis vous effraie encore davantage. Vous devenez plus sensible aux moqueries. Vous n'avez pas assez de confiance en vous pour avoir le courage d'être différent. Vos problèmes vous semblent déjà assez graves pour ne pas souhaiter les empirer en défiant la volonté de la majorité. Alors, vous vous habillez comme on vous le demande, vous parlez comme on vous le demande, et toutes vos idées sont les idées du groupe. Tous ces comportements ont un point commun. Ils proviennent d'un sentiment d'infériorité.
Mais comment se fait-il que cette pression extérieure qui nous pousse à nous conformer aux autres ait une telle emprise sur nous? Pouvez-vous nous expliquer de quelle façon elle affecte notre vie?
Vouloir nous conformer aux autres peut être dangereux parce que nous pouvons être poussés à faire des choses que nous savons être mauvaises. Et c'est précisément ce qui arrive lorsque nous n'avons pas le courage d'être différents de nos amis. Pourquoi pensez-vous que l'alcoolisme soit un problème aussi important parmi la jeunesse? Pourquoi ces jeunes gens et jeunes filles continueraient-ils à fumer alors qu'il est démontré que cette habitude détruit la santé? Cela commence en général par un ami qui offre une cigarette à quelqu'un qui n'a jamais fumé et, malheureusement, le non-fumeur manque de courage pour dire non. Il est donc important pour un préadolescent de savoir qu'il existe une pression de groupe avant que cette emprise ne devienne trop forte. Un jour, il peut se retrouver en voiture avec des copains qui décideront de sniffer de la cocaïne. Ce n'est pas parce qu'il y est préparé qu'il aura forcément le courage de résister à ce moment critique. Mais s'il connaît l'influence de ses camarades, il osera peut-être se montrer assez indépendant pour faire ce qui est bien.
Et ceux qui ne peuvent pas se conformer aux autres, comme les handicapés par exemple, qui doivent marcher avec des béquilles, ou se déplacer en chaise roulante, ou avec un chien d'aveugle?
La pression de la conformité n'est pas seulement nuisible pour les jeunes gens qui sont poussés à fumer, à boire ou à prendre de la drogue. Elle est aussi extrêmement destructrice pour les adolescents qui n'ont pas la possibilité d'être comme leurs amis. Tenez, j'ai été appelé à conseiller une étudiante aveugle dans un lycée. Elle n'acceptait pas le fait d'être différente des autres étudiants. Elle cherchait à ignorer son handicap.
De telles personnes doivent traverser des souffrances énormes. Mais ce qui me paraît contradictoire dans ce que vous avez dit, c'est que la plupart des adolescents n'ont pas l'air de se soucier des sentiments des autres.
Et c'est précisément la raison pour laquelle nous consacrons cette émission à ce problème. Il faudrait que ces adolescents puissent comprendre qu'ils ne sont pas les seuls à ressentir cela, que d'autres ont les mêmes sentiments, et qu'ils ont aussi la gorge nouée lorsqu'on se moque d'eux et qu'ils pleurent aussi quand ils sont seuls. Il ne faut en aucun cas que nous les mettions encore plus mal à l'aise, surtout s'il s'agit d'une personne qui souffre d'un handicap ou d'une difformité physique. Si quelqu'un a trop gros nez, il le sait déjà, alors n'en parlez pas. S'il est trop grand, ou trop petit, ou trop gros, ou trop maigre, ne vous moquez pas de lui, ne lui collez pas de surnom. N'attirez pas l'attention sur son point sensible, et ne lui donnez pas de raison supplémentaire de se sentir mal dans sa peau. Il a déjà assez de problèmes comme cela. Nous devons essayer de comprendre les gens qui se sentent inférieurs et mal dans leur peau. En fait, si nous aimons vraiment notre prochain comme nous-mêmes, nous investirons autant de temps et d'efforts à l'aider à éviter la souffrance et le ridicule que nous le ferions pour nous-mêmes. La Bible dit que lorsque vous aidez de telles personnes, c'est comme si vous le faisiez pour Jésus lui-même. Davantage que tout autre principe, il s'agit là de l'essence même du christianisme.
La Bible enseigne-t-elle quelque chose à propos de la conformité, de ce désir d'être comme tout le monde?
Oui, Pascal. Enfin, la Bible parle très clairement du danger de vouloir nous conformer aux autres. Dieu, dans sa sagesse, savait que les pressions sociales nous empêcheraient de faire ce qui est juste. Et il s'y est donc opposé avec vigueur. L'épître de saint Paul aux Romains, au chapitre 12, verset 2, nous dit « Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer par un changement complet de votre intelligence. Vous pourrez alors comprendre ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. »
C'est un passage remarquable.
À la lecture de ces versets, il est évident que Dieu ne veut pas que nous suivions les fantaisies du monde qui nous entoure. Il aimerait que nous disions « Je vais m'efforcer de maîtriser mon comportement, mon esprit, mon corps et ma vie. » Lorsqu'il s'agit de décider d'être honnête, d'obéir à Dieu, de veiller à ce que mon corps reste pur et en bonne santé, je ne permettrai à personne de me dicter ce qu'il faut faire. Si les autres décident de se moquer de moi, eh bien qu'ils rient. Je ne laisserai rien au monde m'empêcher de vivre une vie selon les principes chrétiens. En d'autres termes, je ne me conformerai pas aux autres.
Docteur, merci pour ces paroles d'encouragement autant pour les adolescents que pour les adultes. Maintenir nos principes en dépit des incitations du monde est une tâche difficile à n'importe quel âge. Elle l'est spécialement pour nos jeunes auditeurs qui décident de se mettre à résister à la pression qui les pousse à être ou à faire comme tout le monde. L'équipe de La Famille Aujourd'hui prie pour vous et demande à Dieu de vous donner la force nécessaire pour éviter de commettre des erreurs graves. L'émission que vous venez d'entendre a été réalisée par La Famille Aujourd'hui avec des éléments tirés de l'ouvrage « Prépare-toi à l'adolescence » publié par les éditions Berekia. Hersh Kifaloudi prêtait sa voix au docteur Dobson. Quant à moi, Pascal Bardet, je me réjouis de vous retrouver bientôt pour une nouvelle émission de La Famille Aujourd'hui.
Voilà, et quant à moi, votre ami podcaster, avant la conclusion de l'émission, je vous propose ce morceau de l'artiste italien Renato Gambulli. Cantano gli angeli. Les anges chantent.
E il paradiso è una favola, e lo so bene anche io. Ma credo che oltre le nuvole forse si è nascosto Dio. E con un gruppo di amici inventa una melodia. Che per alcuni è speranza e per altri follia. Ridono gli imprenditori sul disastro di questa città, come affamati avvoltoi, accecati dall'avidità. E non c'è niente da dire, ma tutto ci resta da fare. Se anche in tanto dolore non si prova pietà. Cantano gli angeli per non morire, gridano e cantano all'umanità, come bambini abbandonati in un deserto di crudeltà. Cantano gli angeli versi d'amore, forse qualcuno li ascolterà. Ci aiuterà. Anime senza più voce, nel silenzio dell'ipocrisia, l'inferno sotto le nuvole è un mondo senza armonia. Basta soltanto una nota ed insieme sarà sinfonia. Chiamala pure illusione, non è solo mia. Cantano gli angeli per non morire, gridano e cantano all'umanità, come bambini abbandonati in un deserto.
musica ci aiuterà.
Every day, anywhere, anytime, the Digital Gospel Channel, Ebenezer International, your station.
Mise à l'écoute, nous arrivons à la fin de cette nouvelle édition de la famille en ligne de mire qui vous a permis de suivre ces deux premiers épisodes autour de l'adolescence. Je vous rappelle que cette émission est une courtoisie de Trésor Média que je remercie sincèrement pour sa fraternelle collaboration avec la radio chrétienne Ebenezer International. Si cette émission vous a plu, si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, vous pouvez nous rejoindre sur l'un ou l'autre des différents réseaux sociaux sur lesquels nous avons un profil, tels que Facebook, LinkedIn, Viadeo, Twitter, et commenter le lien de cette émission pour nous dire ce que vous en pensez. Vos commentaires nous seront très utiles puisqu'ils nous permettront d'améliorer la qualité des émissions à venir. Avant de partir, j'aimerais remercier une nouvelle fois Trésor Média pour sa fraternelle collaboration, ainsi que les différents artistes qui ont apporté leur contribution très amicale à cette émission. C'était pour vous servir au micro et à la réalisation, votre ami podcasteur Franck Doristil qui vous dit une fois de plus merci, au revoir, en vous laissant avec l'artiste québécoise Andréane Lafleur dans « Soleil ». Vous venez d'écouter Famille en ligne de mire. Famille en ligne de mire, une émission animée par Franck Doristil sur la radio qui vient vers vous pour vous servir.